Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En juin, Code Source est revenu sur le fiasco de Knysna, la grève du bus il y a 10 ans. Ça nous a donné envie de vous raconter d'autres étés des Bleus beaucoup plus glorieux.
Higana, bien lancé, c'est pas fini. Higana, à nouveau, qui va pouvoir frapper. Higana qui revient en entrée pour Platini. Et but, c'est Platini.
Aujourd'hui, l'Euro 1984, entraîné par Michel Hidalgo, les Bleus rêvent de décrocher le premier titre de leur histoire. Récit de Christophe Bérard, du service des sports du Parisien. Christophe Bérard, vous aviez 15 ans pour cet Euro 1984, vous vous en souvenez ?
Bah évidemment, je m'en souviens, il est forcément marquant. C'est l'année du premier titre de l'équipe de France, c'est l'année de la première grande compétition en France que j'ai vécue, c'est l'année de la première et ça ne s'oublie jamais.
Vous étiez déjà fan de foot ?
Absolument, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais au collège et j'avais gagné une place pour la demi-finale Danemark-Espagne au stade de Gerland. C'était un match formidable, évidemment, ça a complètement imprégné ma vie et quelque part, ça a peut-être déclenché l'envie plus tard de devenir journaliste sportif.
Pour bien comprendre ce que représente cet Euro 84 en France, il faut remonter 2 ans plus tôt en fait. Le 8 juillet 1982, l'équipe de France affronte l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde à Séville. Et le match est très violent.
Mais c'est extrêmement violent, mais aujourd'hui encore, Séville, c'est une cicatrice, une plaie qui est encore un peu ouverte dans le football français. Tous ceux qui ont vu, qui ont assisté à ce match, s'en souviennent encore.
C'est peut-être, Jean-Michel, là, un petit avantage pour l'équipe de France, encore que...
C'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Objectivement, la France, un petit peu la surprise générale, elle produit un jeu exceptionnel et elle n'est pas forcément favorite au début du match, mais même si elle est menée 1-0, on se dit, bon, les Allemands, parce qu'il y a toujours cette blague habituelle de dire le football, c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Donc là, l'Allemagne mène 1-0 et puis la bande de Platini, Giresse, etc., prend le jeu à son compte et là, on va commencer à rêver. La France va égaliser. On va aller en prolongation. Il y a eu l'agression, parce que le mot n'est pas trop fort, du gardien allemand Harald Schumacher sur le défenseur français Patrick Battiston, qui va finir sur une civière. Commotion cérébrale, des dents en moins, une agression violente. Et le sentiment d'injustice va être prégnant parce qu'aucune faute ne sera sifflée contre l'allemand.
Très vilain geste de Schumacher et très mauvais arbitrage, je n'ai pas peur de le dire, de M. Corbert. Mais quand on ne veut pas voir les fautes, on ne les voit pas.
Et ils vont disputer cette prolongation sans Battiston, mais elle se passe au début, c'est un rêve absolu. La France marque un deuxième but par Alain Giresse avec une image incroyable aujourd'hui d'une joie intense qui l'enserre complètement. Elle prend un deuxième but d'avance, 3-1 grâce à Marius Trésor. Normalement, quand on mène avec 2 buts d'avance en prolongation d'une demi-finale de Coupe du Monde, c'est fini. Mais il y a ce romantisme un petit peu à la française. Les Français ont voulu continuer de jouer. Et puis d'un coup, le rouleau compresseur allemand s'est mis en marche. Deuxième but allemand, réduction du score, égalisation. Et on est arrivé à cette terrible séance de tirs au but. La France va s'incliner au tir au but. 2 de ses joueurs vont rater leur tir au but. Didier Six et Max Bossis, l'Allemagne va en rater un seul et on va se faire éliminer dans un sentiment de cruauté, d'injustice. 42 ans après, on s'en souvient encore. Séville, c'est une cicatrice et en même temps, c'est une fondation.
L'équipe de France battue donc au pénalty. C'est la très très dure sanction de ce match que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Est-ce que cet épisode est toujours dans les esprits des Bleus 2 ans plus tard, au début de cet Euro 84?
Complètement, parce qu'il y a ce sentiment, la France est qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Mais voilà, il y a eu cette demi-finale. En face, l'Allemagne, donc elle est championne d'Europe en titre, elle est vice-championne du monde. En France, il y a cette envie forte de prendre sa revanche et pas pour oublier Séville. Depuis 2 ans, on ne parle que de l'injustice de Séville, donc évidemment, ça va être un moteur pour l'équipe de France, un moteur.
L'Euro se dispute donc en France du 12 au 27 juin. Qui est le sélectionneur de l'équipe de France?
C'est Michel Hidalgo. Alors Michel Hidalgo, ça a été un ancien footballeur, notamment à Monaco, à Reims, qui a pris les clés de l'équipe de France en 1976, donc 8 ans plus tard, il est toujours sélectionneur. Il l'a un peu ramassé par terre, parce qu'en 1976, l'équipe de France, c'est pas grand-chose. Elle n'a plus disputé de Coupe du Monde depuis 1966, et Hidalgo, c'est un bâtisseur. Petit à petit, il va remonter les Bleus, les qualifier d'abord pour la Coupe du Monde 78, la Coupe du Monde 82. Et c'est un type qui, non seulement c'est un bâtisseur, mais c'est un humaniste. C'est quelqu'un qui parle d'une voix douce, qui n'est pas du tout quelqu'un qui s'emporte, c'est pas un adepte des coups de colère. Et c'est quelqu'un qui, avant même d'animer ses joueurs, il pensait à animer les hommes. Il les aimait profondément, il leur a transmis une affection qu'ils lui ont rendue en retour.
Pour vous, c'est vraiment un homme gentil?
Extrêmement gentil, on peut l'attester à chaque fois qu'on l'avait. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui en plus aimait le beau jeu, c'est-à-dire qu'il a voulu rebâtir l'équipe de France à base de jeu. Il n'a pas tenu à dire on va faire un jeu défensif, etc. Il est allé au bout de ses idées, on joue, on crée et en plus il va s'appuyer sur Michel Platini.
Le leader de cette équipe de France, Michel Platini, est à ce moment-là sur le toit du monde.
Il est Ballon d'Or, à savoir c'est le trophée individuel le plus recherché par les joueurs. Il est Ballon d'Or 1983. Il joue à la Juventus de Turin, qui est à l'époque une des meilleures équipes du monde dans le meilleur championnat du monde, le championnat d'Italie. Les Italiens sont champions du monde en titre. Il vient de remporter la Coupe des vainqueurs de coupe avec la Juventus de Turin. C'est le meilleur joueur du monde à cette époque.
Quelles sont les autres figures de cette équipe?
Il y a les défenseurs, il y a Marius Trésor, il y a Alain Giresse, l'autre leader technique de cette équipe de France. On a Bernard Lacombe, on a Dominique Rocheteau. Voilà, il y a des noms qui aujourd'hui encore sont imprégnés dans les mémoires. Il y a d'excellents joueurs dans cette équipe. Didier Six, Manuel Amoros, j'en oublie encore.
Comment se sont préparés les Bleus?
Ils ont repris la recette de 1982. Ils sont allés se préparer en altitude dans la station de Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Il n'y a pas grand monde, il faut aussi se rappeler, c'est une autre époque. Là, aujourd'hui, les Bleus s'entraîneraient en altitude. Il y aurait des cordons de sécurité pour éliminer les curieux. Il n'y a personne quasiment. Et là-bas, il y a la cohésion d'équipe qui va se faire. À un moment, il y a une sortie qui est organisée au casino de Font-Romeu. Michel Platini va glisser une pièce dans une machine à sous. Schling, il va gagner le gros lot ce jour-là.
À ce moment-là, est-ce que le foot est aussi populaire en France qu'aujourd'hui?
Non, on ne peut pas comparer. C'est évidemment le sport numéro un encore, mais on n'est pas du tout dans les altitudes qui vont être ensuite celles de 1998 et de 2018. Non, mais il suffit simplement de regarder, il n'y avait pas grand monde qui venait les voir. C'est le sport numéro un, mais à cette époque, le football français, en équipe de France, il ne gagnait rien.
À cette époque, il y avait eu avant ça l'épopée des Verts dans les années 70, c'était ça le foot en France?
Pendant longtemps, le seul titre de gloire du foot français, c'était la Coupe du Monde 58 avec la belle 3e place. Et ensuite, effectivement, il y a eu l'épopée de Saint-Etienne avec cette fameuse finale de la Coupe d'Europe des Champions, disait-on à l'époque, contre le Bayern Munich en 1976. Mais c'était un peu compliqué. Et puis effectivement, avec ce meilleur joueur du monde, Michel Platini, on sentait quand même qu'on était dans une belle ascension.
Le 12 juin 1984, les Bleus entrent en lice au Parc des Princes à Paris pour leur premier match dans ce tournoi. Ils font face au Danemark. Quelle est la stratégie de Michel Hidalgo?
Il a décidé d'aligner ses meilleurs joueurs techniques dans ce qu'on a appelé un petit peu le carré magique. C'est-à-dire que normalement, il y avait plusieurs numéros 10, les meneurs de jeu. On essaie d'en mettre un ou puis un autre sur le banc, etc. Lui, il a décidé, j'ai des bons joueurs, je vais tous les faire jouer ensemble. Il partait du principe que l'intelligence des joueurs permettrait la complémentarité sur le terrain. Michel Platini, Alain Giresse, il avait également Jean Tigana et Luis Fernandez. Et ces quatre joueurs, dans leur façon de jouer, ils ont tourné les têtes des adversaires.
Comment ça se passe sur le terrain?
France-Danemark, c'est le début, c'est extrêmement crispant. La France est favorite, mais la France, elle bute pendant très très longtemps sur la défense danoise. C'est une équipe qu'on n'attend pas forcément. On est au Parc des Princes et on sent les Bleus extrêmement crispés. En fin de match, il va y avoir un petit peu de réussite. Michel Platini, sur une frappe, voit son ballon détourné par la tête d'un Danois qui est par terre, et ce qui permet de modifier la trajectoire et de battre le gardien danois.
Platini, but ! But de Platini !
La France s'impose 1-0 dans la douleur. C'était très compliqué.
4 jours après ce premier match, les Bleus se rendent à Nantes pour affronter la Belgique. Michel Hidalgo fait un choix tactique de dernière minute.
Il est obligé de changer son arrière-droit puisque le titulaire du poste, Manuel Amoros, s'est fait expulser contre le Danemark. Et il décide, plutôt que de prendre un autre défenseur latéral de métier, de mettre Luis Fernandez, qui est un de ses milieux de terrain habituels. Il le met à ce poste. Sa mission était de faire déjouer le meneur de l'équipe de Belgique. et c'est une réussite totale. Surtout que pour remplacer Luis Fernandez dans son carré magique, il va à la place mettre Bernard Gianghini, qui est également un excellent joueur. Et ce quintet de joueurs sur la pelouse de la Beaujoire va donner un récital incroyable et faire tourner la tête aux Belges pendant 90 minutes. La Belgique va être éparpillée façon puzzle aux quatre coins de Nantes par Michel Platini. Il fait très chaud à la Beaujoire, c'est l'inauguration du stade. Coup franc, Patrick Battisson décide de le tirer, frappe violente sur la transversale. Qui suit le ballon? Michel Platini, 1-0, 4e minute. Et dans la foulée, c'est le récital des Bleus grâce à ce carré magique. La France va s'imposer 5-0, triplé de Michel Platini, but d'Alain Giresse, but de Luis Fernandez.
Sur ce coup franc de Giresse, la tête de Platini est superbe. Un but qui symbolise parfaitement la réussite de l'équipe de France. Tout réussissait ce soir au tricolore, même les barres étaient avec eux. Ils étaient bien les plus forts, 5-0. Grand coup de chapeau au numéro 10 et à tous ses camarades qui font ce soir figure de grandissimes favoris de ce championnat d'Europe.
Les Bleus comprennent qu'ils ont un coup à jouer. Oui, ils sont forts. Ils commencent vraiment à y croire parce que battre la Belgique, c'est une chose. Atomiser la Belgique, c'en est une autre. Et là, la confiance qui leur avait manqué avec la crispation contre le Danemark, elle est revenue. Clairement, les Bleus, avec deux victoires en deux matchs, sont logiquement qualifiés pour les demi-finales. L'optimisme commence à monter. Le rêve qui est installé depuis le début, la mission de l'équipe de France qui est de remporter cet Euro, oui, c'est possible.
Le 19 juin 1984, pour leur dernier match de poule de cet Euro, les joueurs du Michel Hidalgo rencontrent la Yougoslavie à Saint-Étienne, dans le chaudron de Geoffroy Guichard.
Alors, match très compliqué parce que paradoxalement, la Yougoslavie, deux défaites en deux matchs, est déjà éliminée. Mais c'est une équipe qui est extrêmement joueuse. Il y a notamment des joueurs comme Stojkovic, comme Safet Suzik. La France déjoue et très logiquement, elle est menée 1-0 à la mi-temps parce que les Yougoslaves, ils jouent libérés. Et la France un peu crispée, donc il y a des choses à rectifier à l'habitant.
Dans le vestiaire, Michel Hidalgo laisse éclater sa colère.
Oui, il est furieux parce qu'il voit que son équipe de France déjoue. Il sent qu'elle est en train de se laisser aller. Il sent que, certes, il faut parfois encenser ses joueurs, mais à cet instant, il faut les engueuler. Il leur dit de jouer, il leur dit de se méfier, il leur dit d'attaquer. Ils sont en train de perdre et que c'est pas bon pour la suite de l'Euro. Michel Platini, lui aussi, prend la parole pour remotiver les troupes. Mais j'ai une petite anecdote. Récemment, j'ai eu Bruno Bellone, qui est un des joueurs de cette équipe de France, qui était remplaçant. Il me dit à un moment, Platini est venu me voir, il me dit, t'inquiète pas petit, s'il y a un coup franc pour moi en seconde mi-temps, je te garantis, c'est filoche, c'est but.
La roublardise de Platini, il était plutôt de l'autre côté, le coup franc.
Il a un peu déplacé.
Alors là, c'est le show Platini. Michel Platini en seconde mi-temps. Alors non seulement il va avoir son fameux coup franc qu'il a annoncé et qu'il va marquer.
Et voilà.
Il va marquer deux autres buts, donc il va marquer un but du pied gauche, un but du pied droit, un but de la tête. Et à la fin, la France s'impose 3-2. Mais en fait, j'ai envie de dire, Platini s'impose 3-2. C'est le récital de Michel Platini à Geoffroy Guichard sur la pelouse de Saint-Etienne où il a joué pendant trois saisons, où il est chez lui, où le public l'adule. C'est un match encore aujourd'hui. Demandez à tous les Bleus de l'équipe de France 84 quel est le match qui vous a le plus marqué dans cet Euro. Et tous répondent, le show de Michel Platini à Geoffroy Guichard contre la Yougoslavie.
Vous vous souvenez de ce match? Vous vous souvenez de l'avoir vu à la télé?
Mais bien sûr que je l'ai vu, mais c'était exceptionnel. Même si on n'a que 15 ans à l'époque, on est capable de voir quand un joueur marche sur l'eau. C'est une expression du football. Il était au-dessus du lot. Et c'est vrai qu'en seconde mi-temps, on avait l'impression qu'il était béni des dieux. Il avait, je ne sais pas, quelqu'un lui avait béni les pieds avant. Tout ce qui touchait, c'était juste. C'est très rare de voir un joueur à ce niveau.
Et le sélectionneur Michel Hidalgo va montrer à ses joueurs que beaucoup de Français comptent sur eux.
Il leur fait partager l'amour du public. Il reçoit beaucoup de cartes postales, par exemple l'équipe de France. Et de temps en temps, il en lit une. Pensez aux gens qui ont tissé les fils de votre maillot, par exemple, qui est une des phrases qu'il a marquées. Il les écrit sur un paperboard. Il leur transmet par des mots simples. Il a compris qu'en fait, le plus important, c'est de synthétiser sa pensée par quelques phrases clés. Et il transmet petit à petit cet amour du maillot, cet amour du beau jeu, cette ambition surtout.
Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Pensez aux femmes qui ont tissé les fils de vos maillots.
Parce qu'en 1984, encore à cette époque, le football, c'est un sport qui est plutôt apprécié par les classes populaires. Dans l'élite, c'est pas, il n'y a pas cette aura qu'il y aura en 98 ensuite. Donc, c'est un sport plutôt apprécié par le monde ouvrier. Michel Hidalgo, il vient de ça aussi. C'est important pour lui de le rappeler aux joueurs. Derrière vous, les gars, sous votre maillot, il y a des gens qui vous apprécient. Ils sont derrière vous, pensez à eux. Et ça va fonctionner à merveille.
Pour la demi-finale, les Bleus se déplacent à Marseille, où ils vont affronter le Portugal, et sur la route, leur car va avoir un accident.
Oui, en fait, c'est sur une route très étroite, il y a deux bus qui vont se croiser, et à un moment, la route est tellement étroite, justement, les deux bus se croisent, les rétroviseurs se tapent, et celui de l'équipe de France revient brutalement dans la vitre du chauffeur, la vitre éclate, le chauffeur est en sang, et il a le réflexe, surtout, de ne pas donner un coup de volant, parce qu'à ce moment-là, c'est le fossé, c'est la chute. Et les Bleus vont arriver au stade Vélodrome, vitre brisée, chauffeur en sang. Ils sortent du bus un petit peu en silence en se demandant ce qui se passe. Ils vont jouer une demi-finale et leur chauffeur est en sang. Donc vraiment, ça les a pas mis dans une super condition psychologique avant le match.
Nous sommes le 23 juin, demi-finale France-Portugal de cet Euro 84 au stade Vélodrome. Comment jouent les Bleus ?
Très bien, le stade Vélodrome est en furie, il joue son rôle de 12e homme. Et le début est plutôt bien parce que certes, il y a quelques occasions portugaises, mais l'ouverture du score va être pour l'équipe de France. Il y a un coup franc pour l'équipe de France, normalement il est dévoué à Michel Platini, le meilleur tireur de coup franc du monde. Mais à ce moment-là, Jean-François Domergue, l'arrière-droit remplaçant l'homme qu'on n'attendait pas vraiment pour cette demi-finale, s'approche et lui dit « je le sens bien Michel ». Donc Platini lui dit « bah écoute, vas-y ». Et à la surprise générale et surtout celle du gardien portugais, la frappe de Domergue est victorieuse, 1-0. La route sur la finale semble complètement ouverte.
Que se passe-t-il ensuite ?
Le problème, c'est que l'équipe de France gère un peu trop son avantage et à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, il y a une égalisation du portugais Jordão, une tête lobée un peu surprenante. 1-1, on arrive en prolongation et là, c'est un peu plus compliqué. Les Bleus ont peur. Les Bleus, la dernière fois qu'ils ont joué en prolongation, je rappelle que c'est France-Allemagne à Séville. Donc d'un coup, le traumatisme commence à ressurgir. On y repense encore plus. Jordão, le joueur portugais, il est en feu. Il marque un deuxième but. Il rate sa reprise de volée. Il la tape dans la terre. Mais cette trajectoire bizarre permet de lober le gardien français 2-1. Et là, ça y est, on se dit, c'est quasiment fini. Et il reste 6 minutes avant la fin des prolongations. Et là, Jean-François Domergue, l'homme qu'on attendait déjà pas sur le premier but, c'est son 27e anniversaire. Alors ce jour-là, lui aussi, il est béni des dieux. Il va réussir à égaliser, une espèce de cafouillage. Il est dans la surface, il récupère le ballon et il frappe et il égalise. De partout, il reste quelques instants et là, clairement, on est parti pour une séance de tirs au but. Moi, je peux vous dire qu'à ce moment-là, on l'a su ensuite, Michel Hidalgo, il est en train d'écrire sa liste de tireurs. Il inscrit notamment ceux qui avaient Max Bossis, celui qui avait pourtant raté le tir au but à Séville 2 ans plus tôt. Il est sur la liste et là, ils sont en train d'écrire. Et puis, franchement, il reste quelques secondes. Et là, il y a Jean Tigana. Alors Jean Tigana, d'un coup, qu'est-ce qu'il lui prend ? Il récupère le ballon et il s'enfonce dans la surface portugaise côté droit pour aller délivrer un centre pour Michel Platini. Michel Platini contrôle le ballon, des Portugais se jettent devant lui. L'instant semble durer des heures pour moi, mais en fait, il dure une seconde et quelques. Il contrôle et il envoie d'une très jolie frappe le ballon sous la barre transversale portugaise. 3-2, la France est en finale. C'est du délire absolu dans le stade Vélodrome. Les gens se sont levés, je pense qu'ils se sont plus jamais rassis de leur vie. C'était incroyable.
Quelle émotion ! On n'a jamais vu ça ! Et c'est de la folie.
Vous étiez où, vous, à ce moment-là ?
Moi, j'étais à Lyon, devant ma télévision, et au même endroit où, 2 ans plus tôt, j'avais pleuré après le drame de Séville, où on nous avait retiré le bonheur à la dernière seconde. C'est cette folie du foot qui peut vous faire pleurer et 2 ans plus tard vous faire rire. C'était impossible. Imaginez ce scénario. La France qui met 2 buts dans les prolongations et qui s'impose à l'arrache comme ça, grâce à Michel Platini, qui en est à son 8e but de la compétition. Et on arrive en finale. La France n'avait jamais disputé une finale de tournoi de toute sa vie.
Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Une joie incroyable, immense, avec ces mots, on est en finale, on est en finale. On est en finale, c'est des mots qui ne se prononçaient pas dans le football français à cette époque, à part Saint-Étienne en 76. Mais la France n'allait jamais en finale, la France ne gagnait jamais rien. La France est en finale de l'Euro, la France est en finale de l'Euro. J'ai dû me le répéter ça comme un mantra pour s'en convaincre que oui, c'était vrai. Normalement, le bonheur du football international, il était réservé aux autres, il n'était pas réservé aux Français. Et là, sur ce scénario incroyable, cruel pour les autres, mais si magnifique pour la France, oui, c'était fabuleux, fabuleux, il n'y a pas d'autre mot.
Christophe Bérard, vous le disiez, vous êtes à Lyon à ce moment-là et vous allez voir donc le match pour lequel vous avez eu une place, l'autre demi-finale au Stade Gerland.
Le match, c'est Danemark-Espagne. Ce match qui s'est terminé par un partout et au tir au but avec la victoire de l'Espagne, qui était également d'une dramaturgie incroyable. C'était magnifique. Et ces Espagnols qui sont un peu qualifiés à la surprise générale. Donc c'est le finaliste un petit peu inattendu de cet Euro. Et cette Espagne qui s'est qualifiée après cette séance des tirs au but, elle a plus rien à perdre. Elle a réussi son Euro. On l'attendait pas à ce niveau. Elle va jouer libérée. Et ça va être très compliqué finalement pour l'équipe de France d'avoir cette équipe en face qui va jouer sans trop de pression.
On imagine la pression sur les épaules des Bleus.
Elle est là, cette pression, mais ils vont bien la gérer. Par exemple, la veille du match, alors normalement, ils sont tous les mines figées, en train de se poser 1000 questions. Il y a 3 joueurs de l'équipe de France qui vont fabriquer une canne à pêche. C'est Joël Batz, Bruno Bellone et Philippe Bergerot. Et ils vont aller pêcher une carpe et à côté. Ils vont même se faire engueuler pour ça. Donc voilà, la veille du match, certains sont allés pêcher. Non, ils ont plutôt bien géré ça.
La France et l'Espagne vont se disputer le titre de champion d'Europe de football 1984. Finale disputée le 27 juin au Parc des Princes. Christophe Bérard, est-ce qu'on sait ce qu'il se passe dans le vestiaire des Bleus avant le coup d'envoi ?
Michel Hidalgo, il va garder sa méthode d'écrire des phrases un petit peu clés, un petit peu choc sur les paperboards. Il va notamment écrire une phrase du philosophe Confucius. « Quand on arrive au sommet, il faut continuer à monter. » C'est pour leur dire, voilà, on est arrivé les gars, mais c'est que le début. Et là-dessus, pour l'anecdote, Michel Platini va prendre le feutre et va rajouter Jésus-Christ. Juste pour porter bonheur, pour rajouter peut-être une dose d'irrationnel, de religion, je ne sais pas. Et puis juste avant d'entrer sur la pelouse, c'est Luis Hernandez qui va décrisper un petit peu tout le monde en disant, rappelez-vous que deux ans plus tôt, le tir au but contre Séville avait été raté par Maxime Bossis. Et il leur dit, les gars, si on obtient un pénalty à la dernière seconde, on laisse Maxime le tirer, nous on s'en va et on écoute le stade pleurer. Voilà, et cette blague, qui est un peu une moquerie, un petit chambrage à la Luis Hernandez, va faire un petit peu du bien aux Bleus.
Vous parlez de Michel Hidalgo, Luis Hernandez. Pour ces joueurs, j'imagine que jouer contre l'Espagne, alors qu'ils sont originaires d'Espagne, ça veut dire quelque chose ?
Oui, alors c'est surtout pour Luis Hernandez qui est né à Tarifa, qui est né en Espagne, qui a parlé d'ailleurs sa première langue jusqu'à 7 ans, il ne parlait pas un mot de français. Et les Espagnols, ils vont faire un plan contre lui, ils vont essayer de le faire disjoncter parce que c'est un joueur assez sanguin. Et pendant les trois quarts du match, ils vont lui parler en espagnol en disant « Traître, tu as choisi la mauvaise patrie, tu as trahi ta patrie ». L'idée, c'était de le faire disjoncter.
Ils avaient prévu de faire ça ?
Ah, c'était complètement prévu. Fernandez, parfois, pouvait péter les plombs. Et là, la grande fierté de Luis, il nous le redira quelques années après, j'ai pris un carton jaune, mais je me suis bien tenu. J'ai pas pété les plombs. Parce que ça, c'était très malin de la part des Espagnols. On va le faire disjoncter, lui. Et il a tenu.
Alors, comment se passe la finale ?
C'est tendu, mais à un moment, le destin va basculer du côté de l'équipe de France. La France obtient un coup franc pour une faute imaginaire sur Bernard Lacombe.
Oh, moi, j'ai l'impression qu'il tombe tout seul, hein, Lacombe.
Il y a un coup franc. Il est dévolu à Michel Platini. Il enroule sa frappe comme il l'a fait des milliers de fois. Et là, en fait, le gardien espagnol, Luis Arconada, se saisit du ballon. On se dit, tant pis, c'est pas pour cette fois. Et puis, à la surprise générale, au bout d'une seconde, on voit que le ballon file finalement. Il le relâche sous son ventre et il le laisse entrer dans ses buts.
Ouais, but ! Oh, faute terrible d'Arconada et but de Michel Platini.
La France mène 1-0. La bourde de Luis Arconada va le poursuivre toute sa vie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand un gardien commet une boulette en relâchant le ballon, on dit, il a fait une Arconada. Et ce jour-là, l'équipe de France, sur peut-être le plus vilain coup franc de Michel Platini de toute sa carrière, ouvre le score 1-0.
Nous sommes à la 57e minute de jeu, la France mène donc 1-0. Que se passe-t-il ensuite ?
Après, la France gère son avantage, mais le problème, c'est qu'à 5 minutes de la fin du match, Yvon Leroux, le défenseur central massif, un rock de l'équipe de France, est expulsé et on va jouer la fin de match à 11 contre 10. Donc les Espagnols retrouvent un peu d'allant, de confiance. Et les 5 dernières minutes, alors là, moi, je peux vous les raconter, j'ai l'impression qu'elles ont duré 5 heures devant ma télévision. On a l'impression que l'Espagne va forcément égaliser, mais au final, la France résiste et dans la toute dernière minute du match, dernier contre, gentil Ghana lance Bruno Bellone, vif attaquant rapide qui est entré en jeu et qui marque le deuxième but de l'équipe de France. Cette fois, c'est fini, 2-0. La France a gagné, on voit dans la tribune présidentielle le président Mitterrand, tout le monde se congratule, ils s'embrassent tous, il y a des larmes qui coulent. La France est championne d'Europe. La France qui n'avait jamais gagné le moindre titre depuis la création de la fédération de l'équipe de France en 1904. Ça y est, quelque part, voilà, c'est l'Everest pour la France.
8 ans de travail, 8 ans de doute, 8 ans d'ambition. On a réussi à avoir la préparation presque idéale. Les joueurs ont tenu le coup pendant tout le championnat d'Europe. 5 matchs, 5 victoires, c'est tout à fait fantastique. C'est à eux qu'il faut tirer un coup de chapeau.
Christophe Bérard, vous avez suivi cette finale à la télévision, donc chez vous, à Lyon, il y avait qui à côté de vous ?
Il y avait juste mon frère. Pour le reste de ma famille, le sport à cette époque, c'était pas très rassembleur, donc c'était réservé à certains et pas à tout le monde. Ça changera plus tard, mais à cet instant, c'est incroyable de se dire, la France a gagné. En 58, on avait la nostalgie de 58, la France avait terminé 3e. On avait la nostalgie de 76, Saint-Etienne avait perdu en finale. La France ne gagnait pas. Et à ce moment-là, la France est championne d'Europe. Grâce aux meilleurs joueurs du monde. C'est incroyable. À cette époque, tout ça, ça paraissait presque insensé. Faut se rappeler que quand Michel Hidalgo, en 76, récupère l'équipe de France, elle est à la cave. Elle est perdue. Elle s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 74. Elle est pas bonne. Rien n'est bon dans le football français. C'était la seconde zone du football. Et là, d'un coup, première classe. C'est une joie incroyable.
Qu'est-ce que cet euro a apporté au foot français ?
Il a apporté la certitude qu'elle pouvait gagner à condition de bien travailler. La France faisait un énorme complexe. Elle a prouvé que c'était possible.
Christophe Bérard, le grand artisan de cette victoire, le sélectionneur Michel Hidalgo, est mort cette année, le 26 mars, à l'âge de 87 ans.
Oui, et l'équipe de France de 84, quelques semaines avant son décès, ils ont tous tenu à lui faire une visite surprise du côté de Marseille, là où il résidait, et de Michel Platini à Alain Giresse, de Bernard Lacombe à Gentil Ghana, de Manuel Amoros à Didier Six, ils étaient tous là. Et quand Michel Hidalgo les a aperçus, il a vraiment eu les larmes aux yeux toute cet après-midi qu'ils ont passé ensemble à se ressasser, à se remémorer leurs souvenirs de 84 et d'avant. Ça a été quelque chose de très important pour eux et pour Hidalgo. Il y avait une forme d'adieu ce jour-là, mais c'était surtout une forme d'énorme reconnaissance pour tout ce que Hidalgo a apporté au foot français et à cette génération.
Merci à Christophe Bérard, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Benjamin Boucrich, Stéphane Genest et John Timsit, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré comme Apple Podcast ou Podcast Addict.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.